Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. La situation qui prévaut actuellement au Nord Kivu et particulièrement à Goma constituera un grand dossier dans cette émission. Vous suivrez les différentes réactions sur les plans militaires et sécuritaires de la MONUSCO, mais aussi sur le plan diplomatique au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'entend-on par droit de l'enfant? Quelle est la situation de l'enfant congolais, surtout dans l'est du pays confronté à la guerre? Les réponses dans Décryptage avec la représentante de l'UNICEF en RDC dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre de chaque année. Enfin, la situation humanitaire au Nord Kivu, c'est avec Ocha dans notre rubrique Invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
L'actualité de la semaine de ce magazine est consacrée à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec l'occupation de la ville de Goma par le M23 mardi dernier. Au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa, le mercredi 21 novembre, les journalistes présents ne se sont pas privés de poser le plus de questions possibles. Honoré Missinga pour les détails.
Généralement des 45 minutes, cette conférence de presse a duré plus d'une heure et a connu une plus grande influence des journalistes apparemment déterminés. En face, à côté du porte-parole civil, le chef d'état-major de la force la MONUSCO, celui de la police onusienne ainsi que le porte-parole militaire de la mission onusienne pour répondre aux questions, dont celle de savoir pourquoi et comment le M23 a pu occuper Goma alors qu'un dispositif dit robuste avait été mis en place autour de la ville pour l'en empêcher. Le lieutenant-colonel Bass explique ici comment la ligne rouge a été franchie par l'ennemi.
Les lignes qui étaient à Kibumba ont été brisées. Les FRDC ont décroché pour revenir au niveau de Kamahoro et on continue à défendre avec hargne les positions au niveau de Kamahoro. Et dans cette défense qui a commencé à Kibumba, la force de la MONUSCO a apporté tout son soutien au FRDC en engageant ses hélicoptères d'attaque qui, dès le premier jour, ont fait une dizaine de sorties et tiré un nombre inestimable de munitions, de roquettes et même de missiles. Au niveau de Kibati, vous avez tous vu le dispositif qui a été jeté sur le terrain, aussi bien par la force de la MONUSCO que les FRDC, dans une parfaite coopération. Quand ils ont décroché de Kamahoro, au niveau de Kamahoro, ils n'ont pas pu tenir face à l'avancée du M23. Ils ont redécroché au niveau de Kamahoro pour revenir à Kibati. Aussi bien à Kamahoro qu'à Kibati, la force de la MONUSCO est restée à côté des FRDC pour les appuyer de manière conséquente et de manière efficace. Donc à Kibati, nous avons mis en œuvre tout, nos blindés, nos hélicoptères. Donc, qu'est-ce qui explique réellement la perte de Kibati? Moi, je vous dirais tout simplement que c'est lié à l'intensité des combats, c'est lié aussi à la poussée agressive de M23. Donc, cette ligne qui était hermétique a été brisée. Mais quand les FRDC ont décroché, nous, nous sommes restés. Nous avons continué à engager le M23 pour essayer de le dissuader de faire toute avancée significative vers la ville de Goma.
Le général Abdoulaye Wafi de Yen Paul complète et explique pourquoi cette ligne a été brisée.
Au cours des combats à Kibumba, ce n'est un secret pour personne. Le dispositif des FRDC avec l'appui de la force MONUSCO a cédé parce qu'on s'est retrouvé face à une puissance de feu qui n'avait rien à voir avec la force de M23. C'est cela la réalité. Mais encore une fois, nous ne sommes pas là pour faire des allégations ou des affirmations sans pouvoir détenir des preuves formelles.
Autre question. Qui contrôle l'aéroport de Goma? Encore une fois, le lieutenant-colonel Bass.
L'aéroport de Goma est présentement sous contrôle de la force de la MONUSCO. Lorsque les dernières forces de défense au niveau de Kibati et de Munigi ont été trouées par l'avancée du M23, les forces prépositionnées au niveau de l'aéroport de Goma ont vigoureusement interdit aux éléments du M23 tout accès à l'aéroport. Ça veut dire que aujourd'hui, la force de la MONUSCO contrôle l'aéroport de Goma. Nous ne collaborons pas avec les groupes armés, ce n'est pas indiqué dans notre mandat, et notre mandat stipule clairement que nous devons apporter tout notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo dans leurs efforts d'éradication des groupes armés qui sont en train de semer l'est de la République démocratique du Congo et de causer des violences et aussi de créer une situation catastrophique au plan humanitaire. Donc, et je vous affirme ici que la MONUSCO ne patrouille pas avec le M23, la MONUSCO ne collabore pas avec la M23.
Enfin, pourquoi les forces de la MONUSCO n'ont pas combattu après le décrochage des FRDC? Cette fois, c'est le chef d'état-major de cette force, le général de Gramont, qui tranche.
Nous avons un mandat d'appui aux FRDC. À partir du moment où les FRDC n'étaient plus à côté de nous pour combattre et défendre Goma, nous avons eu un problème majeur. Et il était hors de question pour nous de nous battre en ville à cause de la protection des populations.
Quoi qu'il en soit, expliquent les trois officiers de la MONUSCO, Goma n'est qu'une bataille perdue qui ne doit pas éluder tous les sacrifices consentis par les soldats onusiens dans l'Est et ailleurs dans le pays. L'initiative de toute opération incombe souverainement aux forces de la République démocratique du Congo. Nous continuerons à soutenir les FRDC tant qu'ils en exprimeront l'intention, tant qu'ils prendront l'initiative d'une quelconque action, parce que dans le cadre de notre mandat, il est aussi clairement dit que nous devons soutenir leurs efforts pour l'éradication des groupes armés, conclut le porte-parole militaire de la MONUSCO.
Au cours de la même conférence de presse, le porte-parole civil de la MONUSCO, Manoj Mounouba, a interpellé la presse et l'opinion congolaise concernant la mission des forces armées de la RDC. Pour lui, se rabattre sur la mission des Nations Unies ne consisterait qu'à faire d'elle un bouc émissaire.
Et je pense aussi à votre esprit nationaliste et patriotique. Cette armée est chargée de défendre ce pays et c'est sa première mission, défendre l'intégrité territoriale de ce pays. Ce n'est pas la MONUSCO. Alors, si ce bouclier national ne fonctionne pas, posez la question. Ne venez pas vers le bouc émissaire, ne venez pas nous flageller, parce que ce n'est pas ça la réponse.
Sur le plan diplomatique à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité mardi 20 novembre une résolution contre le M23 sur initiative de la France. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, évoque la situation sur le terrain à Goma et le possible renforcement du mandat de la MONUSCO. Jean-Pierre Elali, Coco.
Au regard de la situation sur le terrain à Goma et d'après la demande de la France, le changement du mandat de la MONUSCO est-il envisageable? L'opération de l'ONU en RDC pourra-t-elle avoir un mandat plus robuste que son actuel mandat? Écoutez à ce sujet Hervé Lassou dans ses propos recueillis par nos collègues de la radio des Nations Unies à New York.
Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le mandat de la MONUSCO est dans toute la panoplie des résolutions de nos 17 opérations de maintien de la paix à travers le monde, c'est le mandat le plus robuste. Alors, évidemment, ces mandats sont fixés par les États membres du Conseil de sécurité. Il est loisible au Conseil de sécurité de réexaminer la question. Ce que je voudrais dire, c'est que quand même, à ce stade, nous devons aussi tenir compte des avis des contributeurs de troupes. Je crois que un certain nombre de pays se sont portés volontaires pour participer à cette opération de stabilisation. Au-delà d'un certain degré supplémentaire de robustesse, si on peut utiliser ce mot, je crois savoir que certains auraient des hésitations. Donc il faut trouver le compromis exact, mais tout cela va faire l'objet de consultations dans les semaines qui viennent. J'ai réuni les contributeurs de troupes, leurs représentants aujourd'hui même. Il y aura d'autres réunions, et puis le secrétaire général est lui-même requis par la résolution votée hier par le Conseil de sécurité de faire rapport sur la possibilité de certains redéploiements. Donc tout cela va être examiné, mais encore une fois, en parfaite coordination et consultation entre les différents acteurs.
Par ailleurs, Hervé Lassou félicite le personnel de la MONUSCO sur le travail remarquable qu'il abat à Goma. Il revient sur la résolution du Conseil de sécurité qui condamne les actes posés par les M23 et demande à ces mouvements rebelles d'évacuer immédiatement la ville de Goma.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Environ 60 000 personnes déplacées du camp de Kanyarushinya ont été contraintes à quitter ce site. 35 000 nouveaux déplacés ont été signalés à Mugunga 3. C'est à la suite de la reprise des affrontements entre les FARDC et le M23 pour l'occupation de la ville de Goma. Information de Barbara Schosten, chef du bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA en RDC. Elle a fait le point de la situation humanitaire après l'occupation de la capitale du Nord Kivu par les rebelles. Elle était interrogée par Michel Kifindangoy. Suivez.
Barbara Chaston, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du bureau des OCHA en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la situation humanitaire dans le Nord Kivu depuis la reprise des affrontements autour de Goma?
La situation reste très difficile pour la population civile au Nord Kivu, aux alentours de Goma et même dans la ville de Goma. Comme vous savez, il y a quelques jours, le conflit a recommencé entre le FARDC et les rebelles M23. Maintenant, nous avons des nouvelles que le M23 est dans la ville de Goma et a pris le de facto contrôle de la ville. Il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes déplacées par peur des batailles et des conflits qui ont eu lieu les derniers jours. Il y avait une population importante de personnes déjà déplacées qui étaient à Kanyarushinya, au nord de Goma, et puisque ce lieu a été une sorte de front du conflit, une population d'à peu près 60 000 serait déplacée vers le sud, vers trois sites le long du lac. Et maintenant, il y a des populations importantes à Mugunga, au lac Vert et à Bolengo. Il y a aussi des personnes qui ont pris refuge dans la ville de Goma. Et il y a aussi, à cause du conflit aux alentours de Goma, des personnes qui ont été déplacées à l'intérieur de la ville, qui se sont évadées des tirs et des batailles autour de l'aéroport et dans d'autres lieux de la ville.
Selon les humanitaires sur place, la situation s'est aggravée avec l'arrivée des déplacés de Kanyarushinya. Avez-vous à ce jour évalué le nombre des déplacés internes et externes?
À ce qu'on sache, il y aurait probablement 35 000 personnes nouvellement déplacées à Mugunga 3. Il y a dans le centre Don Bosco, dans la ville, peut-être 4 000 personnes ou plus. Il y aurait 2000 personnes près de l'aéroport qui sont en train d'être protégées par l'ONU. Et peut-être aussi des déplacements des personnes des alentours de Sake où le conflit continue aujourd'hui. Et il se peut qu'il y aurait aussi des personnes qui vont être obligées de se déplacer vers le sud, vers Minova, dans les heures et les jours qui viennent.
Quels sont les vrais problèmes que connaissent ces déplacés dans les camps de Mugunga et autres?
Puisque les gens viennent justement d'arriver, ils arrivent normalement avec presque rien avec eux, peut-être quelques bâches qu'ils ont apportées avec eux et leurs vêtements et peut-être ce qu'ils pouvaient apporter comme nourriture. Ils se débrouillent pour l'instant, mais très vite, il faut leur apporter de l'eau, la nourriture et organiser justement le lieu pour que ces gens puissent avoir un peu d'abri avec ces intempéries. C'est pas la saison où il faut être dehors et dormir par terre. Alors, il y a toutes sortes de besoins. Mais le premier besoin, c'est la possibilité de rentrer chez eux, pour être en sécurité chez eux et de continuer leur mode de vie indépendante chez eux. Et on espère, si une accalmie arrive dans les jours prochains, qu'une grande partie de cette population pourrait rentrer chez eux assez vite.
Peut-on déjà parler d'un drame humanitaire?
C'est toujours un drame quand on voit les gens qui sont mis sur la route avec les enfants et peut-être presque rien que en ce qui concerne leur possession, leur propriété. C'est toujours un drame. On espère quand même que la situation va se calmer bientôt et qu'une crise humanitaire d'une grande ampleur ne va pas arriver.
Combien de camps de déplacés sont établis au Nord Kivu et quels sont les humanitaires qui y interviennent présentement?
Comme vous savez, même avant la crise des derniers jours, il y avait beaucoup de personnes déplacées au Nord Kivu. Il y avait peut-être 70-100 000 personnes déjà dépassé dans la province du Nord-Kivu. Et à peu près 75% de ces personnes restent dans des familles d'accueil, c'est-à-dire ils ne sont pas dans les camps ou des sites spontanés ou des camps organisés pour eux, parce que c'est en effet les communautés proches des villages qui ont été troublés par les conflits qui accueillent la plupart des personnes déplacées. Mais il y a des grands sites, le plus grand c'était le site de Kanyaruchinya où il y a quelques jours il y avait 55 000 personnes. Et les plus grands sites seraient maintenant à Mugunga et à Bulengo, et peut-être des lieux dans la ville de Goma. Ça, on pense que ça ne devrait pas durer, que ces gens-là pourraient trouver le moyen de retourner chez eux sous peu. On espère bien.
Avez-vous suffisamment de moyens pour secourir ces déplacés et quelles sont les difficultés auxquelles les humanitaires sont confrontés?
Nous avons les moyens à court terme d'aider ces gens, c'est-à-dire il y a des stocks, il y a des entrepôts, il y a des humanitaires sur place, mais la difficulté, c'est qu'avec la bataille qui continue, c'est très difficile pour les humanitaires de se déplacer sans se faire eux-mêmes blesser ou isolés dans un endroit où ils peuvent justement pas avoir accès à ces populations en difficulté. Ça, c'est le plus grand défi. Il faut un minimum d'accalmie pour que les humanitaires puissent circuler et dans la ville, et aux alentours, et dans toute la province, et dans les autres provinces comme le Sud Kivu, pour voir qu'est-ce qui se passe et quels seraient vraiment les besoins précis, et puis pour apporter cette assistance en termes d'effets non alimentaires, par exemple des bâches, de l'eau, de la nourriture, et une assistance en santé publique, etc. Mais la première chose, c'est avoir accès à la population sans être obligé de parcourir les soldats qui font la bataille, et pour que les personnes qui en ont besoin d'une assistance puissent eux-mêmes avoir accès aux centres de santé, à leur famille, aux endroits où justement ils puissent prendre refuge ou bien rentrer chez eux en liberté et en sécurité. La stratégie humanitaire est déjà en place. Il y a un grand nombre d'ONG déjà qui travaillent dans le Nord-Kivu. Il y a aussi des agences de l'ONU qui sont prêtes à circuler et à apporter de l'assistance au moment où il y aurait une certaine accalmie dans le conflit qui est assez impressionnant pour le moment.
Barbara Sherston, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Près d'une trentaine de délégués venus de l'Équateur, de Kinshasa et du Bas-Congo ont suivi un atelier de formation des formateurs sur la loi des finances publiques la semaine dernière à Matadi. Cet atelier a été organisé par le COREF, le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques, une structure étatique. Il a bénéficié de l'appui technique et financier du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. 200 policiers de la police nationale congolaise vont être formés à l'informatique dans le cadre de la coopération avec l'UNPOL, la police de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Le lancement de cette formation a eu lieu ce mardi 20 novembre au commissariat général de la PNC à Kinshasa. La formation s'étendra sur 8 mois en raison de 25 apprenants par session. Le projet est financé par le gouvernement luxembourgeois à hauteur de 130 000 dollars américains.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le monde a célébré mardi 20 novembre la Journée internationale des droits de l'enfant. Ce 23e anniversaire de la Convention sur les droits de l'enfant intervient au moment où la partie est de la RDC est confrontée à des conflits qui affectent la vie des enfants ainsi que leurs droits. Quand on entend par droit de l'enfant, en quoi diffère-t-il de ceux des adultes? Quel est l'état de lieu de la situation de l'enfant en RDC, notamment au Nord Kivu? Tels sont les points que Barbara Bentain, la représentante de l'UNICEF en RDC, aborde dans un entretien avec Jean-Pierre Elali Koko.
Madame Barbara Bentain, bonjour.
Bonjour.
La communauté internationale a commémoré le 20 novembre la Journée internationale des droits de l'enfant. Qu'entend-on par les droits de l'enfant, madame?
Bon, ça fait maintenant 23 ans, en 1989, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention internationale des droits de l'enfant. Et c'est un ensemble de droits, on pourrait dire un paquet minimum de base de droits qui devrait être garanti à tous les enfants dans le monde. Donc ça, c'était l'accord qui a été pris dans l'Assemblée générale. Et ensuite, c'est une convention qui a été très rapidement ratifiée universellement. Pratiquement tous les pays dans le monde aujourd'hui ont ratifié la Convention des droits de l'enfant, qui devrait donc garantir un ensemble de droits en matière de survie, en matière de développement, en matière de participation, en matière de protection, en matière de prise de parole, en matière de droit au jeu, à un minimum de standards de vie digne qui sont consignés dans cette convention que les États se sont engagés à mettre en œuvre.
On peut dire tout simplement que ces droits sont ceux aussi de droits de l'homme.
Ce sont les droits de l'homme pour les enfants, parce que les enfants sont des hommes, des femmes, des jeunes, qui ont besoin en plus d'une protection spéciale. Donc la différence entre les droits de l'homme en général, c'est que les droits des enfants contiennent une série de mesures de protection, parce que l'enfant est en train de grandir et a donc besoin d'une protection spéciale pour ses droits.
Oui, Madame Barbara Benten, revenons un peu en RDC. Cet anniversaire, donc le 20 novembre, intervient au moment où l'Est de la RDC connaît des troubles, vous le savez. Et quel état des lieux faites-vous de la situation de l'enfant en ce moment au Nord Kivu particulièrement?
Bon, les situations de guerre sont terribles parce qu'elles mettent vraiment tout à fait à zéro tous les droits. La situation de guerre prive les enfants du droit à la vie. Parce que dans les conditions actuelles, on sait que les écoles sont arrêtées, on sait que les enfants sont parfois séparés de leur famille par la violence, ils sont privés de leur environnement naturel, ils doivent être déplacés. On sait que 80 000, 100 000 personnes ont été à nouveau récemment déplacées, dont beaucoup, beaucoup d'enfants. Et donc, c'est la violation brutale de tous les droits de tous ces enfants.
Oui, devant cette situation un peu chaotique, si on peut le dire, est-ce que l'UNICEF a mis un dispositif pour essayer tant soit peu d'alléger la situation des enfants au Nord Kivu?
Bon, l'UNICEF était déjà là sur le terrain en train d'aider et porter soutien à toutes ces familles qui sont déjà en déplacement. Vous savez que même à la fin de l'année dernière, il y avait dans tout l'Est du pays 1 700 000 personnes déplacées. Maintenant, ils sont plus de 2 400 000 de personnes déplacées. Et maintenant, en ce moment même, pendant qu'on parle, nous avons nos équipes sur le terrain.
Concrètement, qu'est-ce qu'elles font, ces équipes?
Elles sont en train de donner, pour commencer déjà, un appui en nourriture aux enfants et familles. Par exemple, très concrètement, dans le centre Don Bosco, où nous savons qu'il y a près de 8 000 personnes, dont 6 000 enfants jeunes. Et donc, nous avons livré une tonne de rations alimentaires fortifiées, BP5, on appelle ça, pour que pendant les 3 jours qui viennent, déjà, concrètement, ces enfants et ces familles puissent se nourrir. Nous sommes aussi très préoccupés par la présence de choléra. Et donc, on est en train de donner des moyens pour purifier l'eau. L'eau dans la ville, vous le savez aussi, manque en ce moment. Les gens doivent aller puiser l'eau dans le lac. Et donc, ça comporte beaucoup de risques de choléra.
Ça, c'est très bien. Parlons un peu de la situation des droits de l'enfant en général en RDC. Là, je pense que l'UNICEF aussi a une politique dans le domaine, par exemple, des enfants qui travaillent dans les mines. Vous le savez, c'est un fléau ici en RDC. Et quelle est la politique de l'UNICEF de ces côtés-là?
Bon, en termes de principes et de politique, la Convention dit clairement que les enfants ne devraient pas travailler. Les enfants doivent être dans leur famille d'abord, ensuite à l'école et dans leur communauté et de jouir de tous leurs droits. Et le travail pénible, lourd, dangereux que font les enfants, par exemple dans les mines ou en d'autres circonstances très pénibles, sont contre les droits des enfants. Donc on est en train de travailler avec des ONG, il y a une ONG qui s'appelle Number One, qui a une expertise là-dedans.
Là, nous sommes où précisément?
Nous sommes au Katanga, sur les sites miniers, donc on travaille avec eux pour travailler avec la communauté, avoir un dialogue communautaire qui permet d'identifier les problèmes qu'ont les familles, comment on peut les aider qu'au lieu de les envoyer leurs enfants au travail, on puisse envoyer les enfants à l'école. Et on travaille aussi un plaidoyer en direction des entreprises qui sont là, et surtout les grandes entreprises, pour qu'elles aussi puissent prendre des mesures qui rendent leur champ de travail libre d'exploitation des enfants.
Oui, c'est un bel exemple pour l'encadrement de l'UNICEF. Alors, il y a des exemples comme ça à travers les pays. C'est seulement l'unique expérience que vous avez dans ces domaines-là?
Non, on a d'autres sites. Évidemment, on fait ce genre de travail. Par exemple, aussi au Kasaï, où vous avez tout le fléau des enfants qui sont dans les mines artisanales.
Et on a suivi que vous étiez là, je crois, il y a quelques mois.
Exactement, exactement. Donc là aussi, on travaille avec la société civile, avec les acteurs sur place. Évidemment, il y a beaucoup de contraintes, la pauvreté étant la première contrainte, la dégradation des conditions de vie, mais quand même, ce sont les droits des enfants, et donc on continue à œuvrer pour qu'on puisse trouver des solutions.
Oui, vous parlez de l'école, l'éducation est l'un des secteurs clés dont s'occupe l'UNICEF. Quel est l'effort de l'UNICEF de ce côté?
Tout d'abord, il y a la question d'assurer que tous les enfants, filles et garçons, puissent aller à temps, en temps opportun, à l'âge de 6 ans, à l'école. Quand nous regardons les chiffres d'une grande étude que nous avons menée sur les enfants qui ne sont pas à l'école, on voit que malheureusement, plus de 7 millions en âge scolaire ne sont pas à l'école. Et un des grands problèmes, c'est que les enfants vont tard à l'école. Ils ne rentrent pas à l'école à 6 ans.
Et l'action de l'UNICEF?
On a des campagnes back to school, retour à l'école, où réellement on mobilise toute la communauté pour qu'elle identifie que tous les enfants puissent aller à l'école, même ceux, par exemple, il y a des enfants avec handicap qui parfois on les garde dans les familles. Et donc on fait vraiment un travail très intensif avec les communautés pour assurer qu'en septembre, chaque année, les enfants puissent retourner à l'école.
Vous vous occupez des enseignants aussi?
Aussi, on fait la formation des enseignants, on donne aussi des kits aux enseignants pour qu'ils puissent mieux travailler. Et dans la mesure où on arrive à mobiliser des moyens, notamment grâce à des contributions du gouvernement japonais ou d'autres gouvernements, on arrive parfois aussi même à réhabiliter, construire des écoles là où il n'y en a pas.
En termes de bilan, les 10 dernières années, qu'est-ce que vous pouvez dire des efforts qui ont été déployés par l'UNICEF dans le cadre du respect des droits de l'enfant en République démocratique du Congo?
Et où il y a des progrès, par exemple, il y a la mortalité des enfants est en baisse, est en diminution, au cours des 10 dernières années, et là nous allons faire une nouvelle enquête début de l'année prochaine pour mesurer l'état des lieux précis, et on s'attend à encore une baisse de la mortalité parce qu'on a fait des gros efforts, notamment par exemple en distribuant des moustiquaires imprégnés à l'ensemble des familles du territoire congolais, campagne de vaccination, campagne de vitamine A, campagne de vermifuge. Il y aura eu vraiment un impact sur la mortalité. Maintenant, en termes d'éducation aussi, il y a eu des progrès. Quand on regarde les taux de scolarisation, qui étaient, il y a 10 ans, il était très très bas au niveau de 50% des enfants qui étaient à l'école. Aujourd'hui, on a 75% des enfants qui sont à l'école. C'est quand même aussi un progrès notable.
Vous êtes à la tête de l'UNICEF RDC. Et madame, qu'est-ce que vous pouviez faire qui n'a pas marché ces 5 dernières années pour l'enfant congolais?
Bon, tant qu'il y a des enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans dans ce pays, nous avons en une certaine mesure collectivement échoué. Donc, lutter contre la mortalité infantile avec encore plus de force, avec encore plus d'engagement du gouvernement, On ne peut pas se permettre que les enfants continuent à mourir aujourd'hui avant l'âge de 5 ans, alors qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire et que les mesures à prendre ne coûtent pas beaucoup.
Donc c'est un défi.
C'est un réel défi.
Madame Barbara Bentens, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes représentante de l'UNICEF en RDC. Je vous remercie.
Merci.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour chers auditeurs de la radio Kapi. Je suis Joseph Hubert Marie Potopoto Mbiki, né ici à Kinshasa. Contrairement à ce que beaucoup d'amis croient, ils ont toujours tendance à lier mon nom avec Brazzaville. Je ne suis pas congolais de Brazza, je suis congolais de la RDC. Je suis marié à Madame Béatrice Mushinga, et j'aime souvent appeler mon épouse personnelle, privée et publique. Ça fait déjà 16 ans que nous sommes ensemble. Dieu nous a fait grâce d'avoir 6 enfants, une fille et 5 garçons, que je salue aussi, Josiane, Gustave, Marius, David, Austin et Benjamin. Ma formation, je l'ai débutée d'abord à l'école primaire à Rumangabo, dans le Kivu. Je rappelle en passant que je suis fils de militaire, donc vous devez comprendre sûrement que les militaires à l'époque se déplaçaient beaucoup. Et je suis venu les poursuivre à partir de 69, quand on est revenu ici à Kinshasa, à l'école Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa. Et de là, je suis allé à l'école Saint-Charles-Luanga et j'ai terminé mes humanités au collège Elikia. Alors, je suis détenteur d'une licence en communication de faculté catholique de Kinshasa, devenue aujourd'hui Université catholique du Congo. Je suis aussi écrivain. J'ai publié un livre en 2001 intitulé « Guerre des Grands Lacs, la résistance congolaise ». En fait, j'ai analysé tous les discours des autorités congolaises qui prenaient la résistance face à l'agression à l'époque. Je suis à l'UNESCO depuis 2 ans comme administrateur national des programmes communication et information, mais mes liens avec l'UNESCO datent de 2003-2004 où j'ai pu travailler plusieurs fois comme consultant. Je n'ai pas beaucoup de temps libre. En réalité, après le travail, je quitte souvent mon bureau vers 16h-17h. Je rentre chez moi. Pratiquement, je ne bouge pas pendant toute la semaine. Peut-être le week-end, j'essaie de voir mes amis. Le dimanche, je me rends à l'église. Donc, je n'ai pas vraiment un emploi de temps assez libre. Mais il m'arrive parfois de faire quelques évasions à Kinkolé, avec mes enfants, à Maluku, etc. J'adore beaucoup la musique de Papa Wemba, Viva la Musica. Et j'ai aussi un faible pour les grands prêtres Evoloko Lai Lai. La chanson d'Evoloko qui m'a le plus marqué, c'est bien entendu Onassis. Belinda Onassis, Zahir Mouvimba, c'est une chanson qui est sortie il y a longtemps. Mes projets d'avenir, je me considère toujours comme une chance pour le Congo et pour l'humanité. Je reste au service de la communauté des hommes. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et je termine en disant que je suis aussi évangéliste à l'église Christ au pain de vie du pasteur Fouti Lemba.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Je m'appelle Mafuta Pierre, je suis enseignant congolais. Ma question est la suivante. Avec tout ce qui se passe à l'est du pays, nous savons que la plupart des familles du Nord Kivu, surtout dans les petits territoires, les villageois ont fui leurs habitations à la suite des conflits armés. Notre crainte est qu'après la tempête, les familles aient du mal à retrouver leur foyer, leurs habitations. Quelle serait alors, dans ces conditions, la contribution de ONU Habitat dans le cadre de sa mission et de son mandat en République démocratique du Congo? Je vous remercie.
Merci. Nous avons contacté pour vous Oumar Sila. Il est conseiller principal à ONU Habitat. Il répond à votre question.
Oui, je voulais vous dire que le mandat de UN Habitat s'inscrit dans le cadre de la stabilisation, mais aussi pour appuyer les efforts du gouvernement congolais en matière de cohésion sociale et de pacification à travers la prévention et la résolution des conflits fonciers posés dans votre question. UN Habitat est là pour appuyer les communautés, pour effectivement sécuriser leurs droits sur la terre, mais aussi d'accès à un régime foncier. Mais cela ne peut se faire que dans un cadre de pacification et de l'existence de l'autorité de l'État. Donc quand l'autorité de l'État sera rétablie, effectivement nous serons en mesure de recommencer nos activités et d'appuyer les communautés pour qu'ils vivent en harmonie, prévenir les conflits fonciers et les aider à sécuriser les droits fonciers au sein des communautés. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse.
Un rendez-vous à retenir cette semaine, c'est celui du 1er décembre prochain. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée, vous le savez, donne l'occasion à des personnes d'horizons divers de se rassembler pour mieux faire connaître le VIH-Sida et pour montrer leur solidarité face à la pandémie. Cette année, comme l'année dernière, le thème sera Objectif Zéro. Cela veut dire zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida. C'est la fin de cette émission. Jean-Pierre Elali l'a coordonnée sous la supervision de Nicole Ngaka. Honoré Missenga a été au reportage et Mila Kingwini à la présentation. Vous suivrez la rediffusion de ce numéro du magazine des Nations Unies à 19h03 et vous pouvez réécouter ce magazine sur www.radiocapi.net. Pour nous joindre, appelez au 082 30 76 630. Excellente journée dominicale à tous.